Isabelle Falardeau, vous nous parlez de manger. Pourquoi trois repas par jour?
Oui, exactement. Donc, le titre de la chronique de Jean-François Clich, qui est paru dans Le Soleil le 10 septembre dernier, Pourquoi trois repas par jour au juste? Il commence par nous dire que, d'un point de vue historique et culturel, la fameuse succession déjeuner, dîner, souper, c'est pas vraiment universel. Pendant longtemps, nos ancêtres chasseurs-cueilleurs n'avaient pas accès à des sources constantes de nourriture et, comme ils avaient peu de moyens pour conserver ce qu'ils trouvaient, ils mangeaient quand ils pouvaient. Et alors, probablement, parce qu'on n'était pas là, mais probablement autant qu'ils en étaient capables. On en voit d'ailleurs l'illustration dans le fait que le corps humain montre des adaptations claires pour faire des réserves. En effet, entre 15 et 30 % de notre poids est normalement fait de graisse, alors que c'est autour de 1 % chez notre proche cousin, le chimpanzé, notre plus proche cousin. Dans l'Antiquité, les Romains ne mangeaient qu'un seul vrai repas par jour, apparemment, en fin d'après-midi, mais ils prenaient aussi deux légères collations le matin et à la mi-journée. Au Moyen Âge, beaucoup de gens mangeaient deux fois par jour, mais les habitudes alimentaires ont beaucoup varié dans le temps et elles sont encore très variables de nos jours d'un pays à l'autre. Il y a d'ailleurs un article sur les aspects culturels des repas et de leurs fréquences qui a abordé ce sujet dans le British Journal of Nutrition.
Thank you.
Donc, l'habitude occidentale des trois repas par jour, c'est pas universel, mais est-ce que c'est quand même préférable d'un point de vue de la santé? Ou est-ce que ça serait au contraire dommageable? Alors, voici la question à laquelle on va essayer de répondre. En fait, c'est loin d'être clair. Comme on peut le lire dans un article qui passait en revue la littérature scientifique, qui a été publié en 2019 dans Nutrients, quelques études ont observé, à partir des années 1960, que le taux de gras et de LDL, ce fameux mauvais cholestérol dans le sang, était plus élevé chez les gens qui prenaient seulement un ou deux gros repas par jour que chez ceux qui mangeaient des plus petites collations, mais plus souvent, 4 fois et plus par jour. Un peu comme si manger beaucoup à la fois favorisait davantage le stockage de réserves que de se nourrir petit peu par petit peu à mesure que le corps en a besoin. Beaucoup, beaucoup d'autres travaux ont par la suite examiné la question de la fréquence des repas, des effets qu'il y a à sauter le déjeuner, etc. Mais le portrait qui en est ressorti n'est pas particulièrement net. Certaines études ont par exemple conclu que manger seulement un ou deux gros repas par jour était associé à une augmentation de 26 % du risque de diabète
Oh.
et de 21 % pour ceux qui sautaient le déjeuner. Mais d'autres recherches n'ont observé aucun effet notable sur la fréquence des repas, de la fréquence des repas, pardon, et d'autres encore ont conclu qu'au contraire, il est préférable de ne manger qu'un ou deux repas par jour.
Qui croire?
Et comme si ce n'était pas déjà assez mélangeant, les experts ne s'entendent pas toujours entre eux sur la manière d'interpréter toutes ces études. En 2017, l'Association américaine du cœur a émis un avis scientifique dans lequel elle avertissait des risques clairs qu'il y a à ne pas déjeuner. Mais bien d'autres chercheurs estiment plutôt que les évidences à ce sujet sont au mieux équivoques. En ce qui concerne la fréquence des repas et collations, un comité d'experts chargé de mettre à jour les recommandations alimentaires américaines a conclu en 2020 que les preuves disponibles ne permettaient pas de trancher. Donc, pour l'instant, on n'est toujours pas plus éclairé. Bref, ce n'est pas évident du tout que manger 3 fois par jour, c'est mieux ou pire que de prendre plus ou moins de repas ou collations. Et c'est sans doute pas très étonnant parce que les études sur la nutrition sont notoirement difficiles à faire dans la vraie vie. Les habitudes alimentaires sont enchevêtrées avec toutes sortes de variables qui sont souvent impossibles de démêler complètement. Par exemple, l'habitude de sauter le déjeuner est plus répandue chez certains groupes défavorisés, plus pauvres, et comme la pauvreté est statistiquement associée à divers problèmes de santé, ben ça peut créer l'illusion que c'est nocif d'escamoter le déjeuner, mais ce n'est pas nécessairement, donc ça peut être une corrélation sans être une causalité. Bref, ce n'est pas clair de démêler les choses. Et d'autre part, le nombre de repas, c'est une chose, mais la qualité de ce qu'on mange à chaque fois en est une autre. Et justement, plusieurs des études citées plus haut mentionnent que les gens qui escamotent le déjeuner ou qui prennent moins de repas par jour ont une alimentation de moins bonne qualité en moyenne. C'est pas toujours facile de démêler les deux. Les chercheurs ont des outils mathématiques qui vont les aider à neutraliser ces facteurs confondants, comme on les appelle, mais c'est souvent impossible de le faire de façon parfaite. Il y a tout de même deux choses, donc on va quand même réussir à avoir une conclusion plus ou moins claire sur le sujet. Donc, deux choses qui semblent devenir de plus en plus claires dans ce domaine de recherche. La première, c'est que le moment où on s'alimente compte. L'être humain a des horloges internes qui stimulent l'activité le jour et la ralentissent la nuit. La principale de ces horloges est influencée par la luminosité, mais il existe d'autres horloges, des horloges secondaires, qui peuvent être activées quand on mange. Et si on prend un repas ou un snack tard en soirée, ça peut désynchroniser nos horloges avec des conséquences néfastes sur la santé comme l'obésité, le diabète, etc.
Regarder un film vers 10h30, 11h et manger des chips ou du chocolat.
Ça peut peut-être être mauvaise. Ça vient un peu contredire un article que dont j'avais parlé ici qui disait que c'est pas si nécessairement important, c'est plus la quantité que le moment. Mais là, ici, on vient parler d'un élément important, donc c'est nos fameuses horloges biologiques.
Secondaires.
Et la deuxième chose, c'est que, et ça aussi, j'en avais déjà parlé du jeûne intermittent, c'est que le jeûne intermittent semble avoir des effets bénéfiques, même quand il ne dure qu'une quinzaine d'heures. Tous les travaux cités plus haut, selon M. Clich, et d'autres encore, abondent dans ce sens. Donc, ça serait une bonne chose, le jeûne intermittent, dans tous les cas. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il reste encore des zones d'ombre et des incertitudes, mais des consensus scientifiques semblent en voie d'émerger dans les deux cas, même si la preuve n'est pas encore entièrement faite.
Non, je serais portée à dire, quand t'as faim, mange.
Oui, exactement. On reste avec plus de questions que de réponses, mais c'est toujours intéressant de se poser la question quand même.
Merci, Isabelle.